Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Europe, Afrique, Proche-Orient, Asie, États-Unis, Australie. Il a parcouru en un an près de 170 000 km et effectué au pas de charge 43 voyages. Emmanuel Macron a investi avec gourmandise le domaine réservé du président de la République, la politique étrangère, avec pour objectif de remettre la France au cœur du jeu diplomatique, d'asseoir son leadership international en surfant sur la curiosité et la sympathie qu'il peut susciter hors de l'Hexagone. Son credo, il faut parler avec tout le monde et peu importe les critiques. Emmanuel Macron en fait-il trop avec des personnalités comme Donald Trump et Vladimir Poutine? Quel bilan peut-on dresser de sa politique étrangère depuis mai 2017? Le président de la République a-t-il redoré l'image de la France à l'étranger? Alors qu'un risque d'embrasement pèse sur le Proche-Orient après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, quel rôle pour la diplomatie française. On en débat avec trois invités. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Salam Kawakibi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre arabe d'études et de recherche politique à Paris. Et Antoine Glaser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste écrivain, spécialiste de l'Afrique. Alors, selon une enquête du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, 55% des Français dressent un bilan négatif de l'action d'Emmanuel Macron après un an de pouvoir. En revanche, 63% estiment que la politique étrangère va dans le bon sens. Est-ce que ce dernier chiffre vous étonne, Bruno Tertrais ?
Non, pas vraiment, parce que je crois que les Français aiment le miroir qu'on leur tend, à savoir que l'image d'Emmanuel Macron est effectivement globalement excellente dans le monde, que les médias, les opinions qui regardent Macron le considèrent toujours comme un homme qui apporte un sang neuf à l'image de la France. Je crois que c'est davantage un sondage qui reflète l'image qu'on renvoie aux Français de l'image de Macron à l'international, plutôt qu'une appréciation pensée sur la politique extérieure de la France. Mais c'est important, les images, les symboles, c'est quelque chose d'extrêmement important en politique étrangère et en diplomatie. L'image de la France en soi et l'image de son président, c'est un atout en politique étrangère.
Salam Kawakibi, France is back, avait proclamé Emmanuel Macron en janvier dernier au Forum économique de Davos. Dimanche dernier, dans une interview au JDD, il parlait de fierté retrouvée. Est-ce que c'est de l'autosatisfaction ou est-ce qu'il y a une petite part de réalité ?
Je crois que c'est plutôt de l'autosatisfaction, surtout quand on voit les résultats de l'accueil chaleureux de Poutine à Versailles et la visite chaleureuse à Washington. Et qu'est-ce que ça a donné ? Rien. Sur la scène internationale. La Russie a renforcé son attitude agressive et violente dans toute la région du Proche-Orient et ailleurs. Les États-Unis, ils n'ont pas attendu quelques heures après le retour de Macron de Washington pour annoncer le retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran. Moi, je crois que cette volonté de faire une rupture avec le passé piège tous les présidents, que ce soit Monsieur Macron ou même Donald Trump qui fait tout au contraire de la politique d'Obama. Et maintenant, Monsieur Macron, il veut copier aussi la façon dont Nicolas Sarkozy a fait la rupture avec Jacques Chirac. Lui, il veut la faire avec Hollande. La France, back again, la France n'a jamais été absente sur la scène internationale. Alors, le retour de la France, je crois que c'est un retour imaginé plutôt qu'autre chose.
Retour imaginé, vous êtes d'accord, Bruno Tertrais ?
Je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les annonces et la posture. Effectivement, cette idée que la France est de retour alors que la France n'avait jamais quitté la scène internationale. L'image de la France, d'ailleurs, n'était pas mauvaise. François Hollande n'était pas jugé comme un mauvais président à l'étranger. Il était plutôt comparé favorablement à son prédécesseur. Nicolas Sarkozy était parti de l'Élysée avec une image absolument désastreuse, de déception, d'échec, et puis surtout d'un comportement international qui était rarement apprécié. Donc je crois que je suis assez d'accord avec Salam, il y a quand même beaucoup d'images et de postures dans tout cela, mais encore une fois, je crois que c'est pas forcément quelque chose de négatif, sauf quand on va effectivement le comparer au bilan concret, même si je suis un petit peu plus nuancé que Salam sur ce point, parce que je crois qu'il faut quand même attendre qu'au bout d'un an, il n'y ait pas énormément de résultats concrets concrets, des choses qu'on puisse annoncer comme ça au monde en un an, moi ça me choque pas plus que ça.
On ne peut pas parler de rupture donc avec ses prédécesseurs.
Non, et ça c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron et de l'Élysée d'annoncer comme cela qu'il y a un tournant, une rupture, un changement de posture, de langage, parce que dans les faits, il y a beaucoup plus de continuité que de rupture, et c'est d'ailleurs à peu près à chaque fois le cas, à chaque changement de mandature.
Antoine Glaser, on développera tout à l'heure la politique africaine de la France, mais en quelques mots, est-ce que Macron l'Africain s'est démarqué de Hollande l'Africain ?
Oui, je pense que sur la forme au moins, je pense que même par rapport même à Nicolas Sarkozy, il y a une rupture sur le plan de la forme. C'est vrai que c'est la fin d'un certain paternalisme, un certain copinage avec les chefs d'État africains. Donc là, il y a une rupture, ça veut dire quand il s'adresse à la jeunesse africaine, mais il faut pas se faire d'illusions, on est toujours dans la réelle politique, donc c'est sur la forme, mais on est dans la réelle politique dans le sens où c'est du libéralisme, c'est maintenant, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Quand il rencontre les jeunes Africains à Ouagadougou, il leur dit, écoutez les gars, vous voyez, les Burkinabés, ils ont fait leur révolution, vous n'avez qu'à faire votre révolution, ne comptez pas sur moi pour finalement lutter contre vos autocrates. Il y a un message, c'est vrai que c'est un vrai changement, hein. il n'est pas en train d'envoyer des SMS à un certain nombre de chefs d'État africains, donc il y a une rupture sur le plan de la forme, sur le plan du fond, il sera encore plus présent sur le plan d'une diplomatie économique et aussi ce qu'il est en train d'initier quand même en Afrique, c'est une sorte de ce qu'il appelle le soft power, de diplomatie d'influence sur le plan culturel, sur le plan, il y a une sorte de diplomatie d'influence extrêmement importante, et surtout, je pense qu'il a compris à l'Afrique mondialisée, il y a une réelle politique en ce moment qui est en train de se mettre en place, et en fait, ce qui fait beaucoup plus que ses prédécesseurs, il a compris qu'il fallait s'adresser aux diasporas africaines en France, qui font la politique africaine quelque part. Les mouvements anti-français en Afrique ne viennent pas du continent, ils viennent de cette diaspora africaine, il a compris, je veux dire, il suffit de regarder les chiffres, hein. La plus grande communauté française maintenant actuellement en Afrique, c'est le Sénégal avec 25 000, mais il a compris, et il sait bien qu'il y a 300 000 Maliens, 300 000 Ivoiriens, et tous ces gens-là sont souvent des opposants à finalement leur régime en Afrique. Donc il y a une sorte de réel politique, il y a une attitude de diplomatie économique, d'accompagnement des entreprises françaises qui sont réellement en perte de vitesse sur ce continent. Il y a un vrai changement, mais c'est un changement pas dans le sens où il imagine les opposants africains en disant il va nous aider, il a compris qu'il va nous aider. Il n'y a pas une prime à la démocratie, il y a toujours une prime à la stabilité. Il y a un resserrement du dispositif français uniquement sur l'Afrique de l'Ouest. Emmanuel Macron est en train d'abandonner complètement l'Afrique centrale. Vous avez actuellement des centaines de soldats russes en Centrafrique à Bangui, je veux dire, ce qui est quand même totalement nouveau. Par contre, il y a un resserrement sur l'Afrique de l'Ouest et il y a aussi une volonté, vous allez avoir le président angolais João Lourenço qui sera à Paris, Emmanuel Macron sera en juillet au Nigeria, c'est le business. C'est ce qui intéresse Emmanuel Macron en Afrique, c'est les premiers de cordée africains. Lui, il va s'adresser aux banquiers, il va s'adresser à la jeunesse africaine, mais à la jeunesse africaine qui gagne. Faut pas s'imaginer. Par contre, il va être extrêmement, à mon avis, très dur sur le plan. On le voit déjà sur le problème de la loi, sur tout ce qui est migration. Là-dessus, il y a vraiment des accords secrets avec un certain nombre de pays africains pour verrouiller. Mais, je veux dire, il va s'adresser à l'Afrique qui gagne, entre guillemets, c'est le libéralisme autoritaire qui va être appliqué en Afrique comme en France.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on va commencer par le dossier brûlant du moment, la décision américaine de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 après 12 ans d'âpres négociations à Vienne. Bruno Tertrais, est-ce que c'est un camouflet pour le président français ?
Je ne parlerai pas de camouflet. C'est de toute façon une décision qui met en porte-à-faux la France, mais aussi l'ensemble des Européens, puisque l'Europe a souscrit pleinement à cet accord. Elle l'a même co-négocié avec les États-Unis. Je crois que l'erreur de Macron, s'il y en a eu une, ça a été de laisser croire qu'il entretenait cette relation avec Trump et qu'il allait à Washington pour faire changer d'avis le président américain. Bon, je crois qu'il y a un instant où il l'a cru, c'était au mois de septembre, octobre, novembre. Mais je crois que la stratégie de Macron est plus intelligente que ça sur ce dossier. Ça consiste à dire, quoi qu'il se passe, je veux développer une relation de confiance avec Trump parce qu'il est important qu'on ait ce canal de discussion et qu'on s'entende bien, même si on est en désaccord, et justement, surtout si on est en désaccord. Parce que c'est un fusil à trois coups, si vous voulez, le deuxième coup, C'est-à-dire, bon, bah, maintenant, je vais essayer de limiter les dommages, y compris d'ailleurs pour les intérêts économiques français et européens aux États-Unis, parce que ça va tanguer, ça va secouer entre l'Europe et les États-Unis à cause de cette affaire et du rétablissement des sanctions. Donc, je crois que les embrassades entre Macron et Trump, c'est un atout qui n'a pas totalement disparu. Bon, c'est un camouflet pour la communauté internationale en général, hein, pas spécifiquement pour la France.
Salam Kawakibi, on se souvient donc des embrassades, des gestes d'affection à répétition à Washington entre le président américain et le président français, ce que les médias américains avaient appelé la bromance. Est-ce que Emmanuel Macron a fait preuve de naïveté selon vous ?
Je crois pas que c'est une question de naïveté, mais c'est une confiance exagérée dans sa capacité de mener la chose ou de changer les convictions de Trump. Il faut souligner maintenant que Donald Trump, quand il a retiré les États-Unis des accords, il a aussi condamné l'économie européenne à passer dans une phase très difficile. Plutôt, c'est une décision presque économique, aller contre l'Europe plus qu'autre chose. Dans sa décision de sanctionner l'Iran, il sanctionne plutôt l'Europe. Parce qu'il faut souligner que l'Iran, et notamment les bases d'Aran, les gardes révolutionnaires et les services de sécurité, profitent un maximum du boycott. Ce sont des régimes où la classe politique préfère rester sous boycott toute sa vie, comme c'est le cas en Syrie, comme ailleurs, comme en Irak, Saddam Hussein, parce que il développe une économie parallèle et ça affecte seulement le peuple.
Oui, voilà, c'est ça. La classe politique peut-être en profite, mais pas la population.
Bien entendu. Et ces dictateurs ne pensent jamais au peuple. On voit très bien comment l'Iran traite leur mouvement de contestation et comment ils traitent les mouvements de contestation ailleurs. En Syrie, ils envoient des milices pour tuer les Syriens qui contestent le pouvoir de Assad. Donc, finalement, c'est une sanction plutôt à l'égard de l'Europe que contre l'Iran.
Alors les Européens le disent, hein, l'ont répété, ils ne veulent pas croire à la mort de l'accord de Vienne. Emmanuel Macron souhaite des négociations pour élargir le champ de l'accord avec Téhéran, en faire un accord régional de sécurité. Bruno Tertrais, est-ce que ce scénario est plausible ?
C'est un scénario extrêmement improbable, mais encore une fois, il faut voir ce que les Américains appellent « the big picture ». Il faut voir, replacer les choses dans un contexte. L'enjeu, à mon sens, pour la diplomatie française, il est double. Il est triple même. D'abord, ne pas couper les ponts avec une administration américaine qui est en roue libre, qui fait ce qu'elle veut et qui agit de manière extrêmement brutale pour notre plus grand mal, certes, mais en tout cas, le fait est que les États-Unis sont quand même la plus grande puissance militaire et économique mondiale, et que donc avoir de bonnes relations au sommet entre Trump et Macron, ça reste important, j'insiste, et même peut-être justement quand ça va mal. Deuxième enjeu, c'est de pas couper les ponts entre Européens. Et l'unité européenne, dont on se rappelle qu'elle a été extrêmement mise à mal pendant des crises majeures, comme notamment dans les années 2002-2003 à propos de l'Irak, là, elle est là. Pour l'instant, elle est là. Et c'est important pour la France d'essayer justement de faire le pont entre l'Amérique et l'Europe, de ce côté-là. Troisième enjeu, c'est de pas couper les ponts avec l'Iran. L'Iran, c'est un pays qu'on ne souhaite pas isoler, en tout cas qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas, qu'il reprenne ses errements précédents et qu'il sorte lui-même de l'accord nucléaire. Donc voilà, c'est une partie compliquée. C'est vrai que j'ai une certaine, je vois ça de manière assez positive. Tout ça est risqué, compliqué. On a fait une erreur, je pense qu'on dans la négociation, on a fait au moins une erreur, c'est d'essayer de vouloir tout traiter en même temps. Pour se faire bien voir des Américains, on a dit il faut effectivement prendre en compte tout ce qui est pas dans l'accord, les échéances, les missiles balistiques.
Et parce que l'accord allait jusqu'en 2025.
Oui, c'est la première échéance, c'est 2025. Et ça, c'est un des points de blocage pour Trump. Il trouve que 2025, c'est trop tôt. Bon, en gros, le discours qu'on a tenu publiquement, et ça, c'était une erreur, c'était de dire c'est vrai, Trump a raison, il y a des insuffisances. Il faut traiter tous ces sujets. Sauf que quand on arrive à Téhéran et qu'on dit ben voilà, on veut traiter tous ces sujets de contentieux, les Iraniens disent mais ça va pas la tête. On n'avait rien à leur donner. Hein, en diplomatie, c'est un rapport de force ou c'est un échange. Mais il faut avoir quelque chose à donner. Or, on ne l'avait pas. Donc je crois, pour résumer, qu'on a eu une stratégie intelligente qui continue d'avoir ses vertus, mais on a peut-être un petit peu poussé trop loin notre avantage.
Salam Kawakibi, vous êtes d'accord ?
Je crois que c'est très important de voir que maintenant le rôle de la diplomatie française va être crucial dans les prochaines semaines, voire prochains mois, pour essayer de sauver les accords ou bien développer ou changer un petit peu les détails pour satisfaire, et ça ne sera jamais fait, un peu l'administration américaine, mais aussi obliger ou pousser l'Iran à changer son attitude dans la région. Parce que il suffit pas de parler du nucléaire seulement avec l'Iran en ce moment, il faut parler aussi de sa domination et les perturbations qu'elle cause dans toute la région, du Maroc jusqu'au golfe arabo-persique.
Mais est-ce que l'Iran est prêt à accepter d'inclure tous ces facteurs dans un accord élargi ou complété ?
Je ne crois pas, parce que l'Iran utilise ses outils pour marchander sur la scène internationale. Elle va pas abandonner le Hezbollah libanais qui domine la scène politique libanaise dernièrement dans les élections législatives. Elle va pas abandonner son soutien récent au mouvement Polisario pour déstabiliser le régime du roi Mohamed VI au Maroc. Elle va pas abandonner non plus les Houthis au Yémen. Elle va les utiliser comme des outils de négociation et elle va attendre, comme les marchands du bazar, elle va attendre qu'est-ce qu'on va lui offrir pour abandonner tous ces outils lucratifs et efficaces.
Alors qu'est-ce qu'on va lui offrir, Bruno Tertrais ? Est-ce que l'Europe, là, a une carte à jouer et la France peut jouer les locomotives ?
Mais la carte, elle a déjà été jouée. La carte, elle a été jouée en 2015, où on a fait collectivement avec les Anglais, les Allemands, et puis aussi les Américains, les Russes et les Chinois, mais les Européens ont été en pointe dans cette affaire. La carte, c'était de dire, bon, voilà, vous avez le choix maintenant, vous poursuivez votre programme nucléaire, ou bien on vous offre la levée d'une grande partie des sanctions internationales, toutes les sanctions internationales, et on engage votre économie vers la modernisation. C'est un pays dans lequel les infrastructures, par exemple pétrolières et gazières, sont en très mauvais état, donc il y a un besoin d'investissement. Donc ce choix a été fait. La carotte, comme on dit vulgairement, a déjà été donnée. Nous n'avons pas grand-chose de plus à offrir que le maintien, pour ce qui nous concerne, nous Européens et nous Français, de cette stratégie. On va pas faire, il n'y a aucune raison même de faire de cadeaux supplémentaires à l'Iran pour compenser le retrait américain. Il n'y a absolument aucune raison, surtout dans le contexte que vient de décrire Salam, qui est réel. Il n'y a aucune raison de donner quoi que ce soit de plus.
Donc aujourd'hui, la balle est entièrement dans le camp iranien.
La balle est en partie dans le camp européen, parce que la partie qui va se jouer, et là le rôle de Macron va être intéressant, c'est aussi de limiter les dégâts sur les économies européennes du maintien de l'accord nucléaire avec l'Iran. Pourquoi ? Parce que les Américains rétablissent leurs sanctions. Or, ces sanctions, c'est une spécialité américaine, sont largement extraterritoriales. C'est-à-dire qu'une entreprise française qui fait du business en Iran, si elle fait aussi du business aux États-Unis, elle peut être sanctionnée. Et là, il y a une négociation qui peut s'engager, d'abord sur d'éventuelles exemptions de certaines entreprises européennes. Et là, on va voir si justement Macron a la capacité d'exiger quelque chose de Trump de ce point de vue-là. Et puis, sinon, il faudra engager un rapport de force. Et le rapport de force, il se fait entre l'Europe et les États-Unis. On a déjà fait ça il y a 20 ans, justement déjà à propos de sanctions extraterritoriales contre l'Iran. Et c'est pour ça que c'est très important que les Européens soient unis dans cette affaire.
Et ils ont des chances de l'être, parce que finalement, c'est ce que rêve Emmanuel Macron, que l'Europe parle d'une voix unie et forte.
La clé sera chez les Polonais, les Hongrois et chez les Tchèques. Ce sont ces pays qui ne veulent pas se démarquer trop des positions américaines, pour tout un tas de raisons, et qui sont des raisons à la fois politiques et culturelles, mais aussi stratégiques, parce que pour eux, l'Amérique, c'est aussi elle qui la protège des Russes. La clé sera trouvée dans le rapport entre les trois grands, entre guillemets, France, Grande-Bretagne, Allemagne, qui sont unis sur cette affaire, et la nouvelle Europe, entre guillemets, ou l'Europe centrale, qui tend à être un petit peu plus hésitante, parce qu'elle est plus proche des États-Unis et ne souhaite pas fâcher Washington.
Alors, je vous propose de faire une pause. Bruno Tertrais, Salam Kawakibi, Antoine Glaser. On se retrouve dans 10 minutes et on laisse la place à un nouveau journal.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Suite de géopolitique, quel bilan tiré de la politique étrangère d'Emmanuel Macron après un an au pouvoir? Quels défis attendent le président français à l'aune du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien? Je précise que cette émission est enregistrée au surlendemain de ce retrait. On continue à débattre avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe d'études et de recherche politique à Paris, et Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Bruno Tertrais, est-ce qu'il y a pour Emmanuel Macron des leçons à tirer de ce qui se passe avec Donald Trump? Je veux dire, est-ce que le schéma risque d'être le même avec Vladimir Poutine, reçu avec tous les honneurs au château de Versailles, et qui depuis n'a pas donné le moindre signe d'ouverture par rapport à la Syrie et à ce que fait son allié Bachar el-Assad?
S'il y a des leçons à tirer de cette première année d'Emmanuel Macron dans sa diplomatie vis-à-vis de la Syrie, c'est que la stratégie qui consiste à être gentil, à être souriant et à recevoir les dirigeants russes, enfin un dirigeant russe tel que Poutine, sous les ordres du palais de Versailles, ça ne vous rapporte strictement rien. Ça change une chose, ça change l'image de la diplomatie française qui, à tort ou à raison, à mon avis plus à tort qu'à raison, avait cette image du pays qui ne parle pas à la Russie, ce qui est totalement faux. Hein. On passait notre temps sous Hollande à parler à la Russie à propos de l'Ukraine notamment. Jamais on a autant parlé à la Russie. Mais enfin, en tout cas, il y avait cette image. C'est pour ça que c'était très malin de la part de Macron de recevoir Poutine à Versailles. Parce qu'il l'a fait de manière très délicate et polie et en envoyant des messages très clairs sur les tentatives russes de déstabilisation des sociétés européennes, notamment via les médias RT et Sputnik.
Bon. Et sur les droits de l'homme et sur la liberté de la presse.
Absolument. Donc ça, c'était important. Est-ce que, en étant gentil avec la Russie, on va la faire changer d'avis sur la Syrie? Sûrement pas. Et je crois qu'il y a peut-être une petite naïveté, parfois, dans la diplomatie française, ou en tout cas, à l'Élysée, sur l'idée que, un petit peu comme Barack Obama arrivant après George Bush, oui, il suffit que Macron arrive pour que le monde entier soit à ses pieds et tout le monde change d'avis sur les grands dossiers. Ben non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça se joue dans des rapports de force. Alors ça, je crois que Macron le comprend très bien. Hein. C'est un homme de rapports de force. Et il comprend très bien le sujet. Mais on ne peut faire changer d'attitude ou de position des pays comme la Russie, la Syrie, l'Iran ou les États-Unis sur les grands dossiers, que si on a quelque chose, encore une fois, je le répète, soit à échanger, soit un rapport de force à construire. Et là, je crois que sur le dossier syrien, enfin, Salam sera sans doute encore plus sévère que moi, il y a peut-être eu quelques illusions. Il y a eu cette idée de dire, ben voilà, en disant que Bachar el-Assad, personne ne m'a présenté son successeur, ce sont les mots de Macron, peut-être qu'on va se repositionner en étant gentil avec Bachar, on va se repositionner sur le dossier syrien. À mon avis, c'était une erreur.
Salam Kawakibi, la France n'a rien gagné en recevant avec autant de faste et d'honneur Vladimir Poutine.
Du tout. De plus, sur le dossier syrien, c'est Poutine plutôt qu'il a gagné. Il a fait passer un message qui est devenu presque adopté par la diplomatie française, qui consiste à dire notre ennemi principal, c'est Daesh, l'État islamique. Assad, c'est peut-être l'ennemi de son peuple, mais ça nous regarde presque pas. C'était le message qui a été reçu, en tout cas, même si on a dit après que ça a été mal communiqué, on voulait pas dire ça exactement, mais ça a été reçu de cette manière. Tout récemment, l'ambassadrice française à Moscou, elle donne une interview à un journal russe sur la Syrie. Elle dit nous avons changé de politique, on veut plus le départ de Assad comme préalable à toute transition politique. Il y a une contradiction quand la France participe à l'attaque contre les positions, et il faut souligner que c'était une attaque de démonstration de force. Il n'y avait rien qui a été touché, à part des immeubles vides.
Mais la France a eu raison quand même de s'associer aux États-Unis et au Royaume-Uni pour mener ses frappes en Syrie, après l'attaque chimique.
De cette manière, je crains que ça a donné l'effet inverse. De cette manière, ça a renforcé la position du régime syrien. De cette manière, ça a consolidé la solidarité de ce que j'appelle la gauche pavlovienne arabe et européenne avec le régime syrien comme étant victime d'une attaque impérialiste, etc., etc. C'est un discours qui est interminable. Finalement, c'était une démonstration, un show hollywoodien qui n'a pas du tout affaibli ni la force de frappe, ni la volonté d'exterminer les opposants au régime syrien. Alors finalement, c'est plutôt la diplomatie russe qui a changé l'attitude ou le discours de la diplomatie française que l'inverse.
Bruno Tartaret, vous êtes d'accord? Ces frappes, c'était un show et rien d'autre? Ou est-ce que c'était pas quand même un message de fermeté envoyé à la fois à Bachar el-Assad et à Vladimir Poutine?
Quels que soient les objectifs exacts qui ont été visés, et même si c'était des entrepôts vides, je ne crois pas qu'il y avait que des entrepôts vides par ailleurs, c'est important de signaler qu'il y a des choses qu'on ne souhaite pas laisser faire. Alors, on va dire, ah, mais pourquoi se mobiliser quand il y a des armes chimiques qui sont utilisées, alors qu'il y a des centaines de milliers de Syriens qui sont... Certes, mais on peut pas tout faire en diplomatie, et on est obligé de fixer les lignes quelque part. Donc, personnellement, je comprends très bien que les Syriens se disent, mais vous vous mobilisez pour quelques dizaines de morts à l'arme chimique, alors que nous, c'est par centaines de milliers avec des barils d'explosifs, mais nous avons nos intérêts aussi, et notre intérêt, il va au-delà de la Syrie. C'est de dire, si on commence à accepter que l'utilisation des armes chimiques devienne un mode normal de gestion des rébellions dans le monde au XXIe siècle, c'est pas forcément une très bonne chose. Donc il faut marquer le coup. Et donc je crois que la France a bien fait de marquer le coup. On aurait pu effectivement, et là je partage l'avis de Salam, faire quelque chose d'un petit peu plus marqué. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que la France a été suiviste vis-à-vis des États-Unis dans cette affaire, puisque c'est plutôt le contraire. C'est plutôt Macron qui a été publiquement dès l'été 2017, très en pointe sur cette affaire, plus que Trump. Et la France n'a pas la puissance de feu des États-Unis, donc ça s'est peut-être un peu moins vu. Mais sur le plan politique, la France a souhaité être en pointe là-dessus. Et j'ajoute que Macron, contrairement à François Hollande, donc là il y a une petite
Oui, parce que François Hollande nuance, en 2013 avait renoncé après le recul de Barack Obama.
Oui, et François Hollande disait « moi je veux pas faire ça seul parce que j'estime ne pas avoir la légitimité pour le faire ». Bon, dont acte. Macron, et là une petite évolution, disait « si nécessaire, si les Américains n'y vont pas, j'irai quand même tout seul ». Donc c'est pas exactement du suivisme.
Et est-ce qu'aujourd'hui ça donne un peu plus de chance à la France d'être associée à un possible processus politique, ou est-ce que c'est trop tard?
Je n'y crois pas une seconde, et je pense que c'était une surlégitimation de ce qui a été fait après les attaques chimiques. Et là, pour le coup, c'est une argumentation, à mon avis, qui ne tient pas la route. C'est plutôt pour la consommation interne, ça.
Salam Kawakibi, vous êtes d'accord? Il est trop tard, Poutine est le seul maître du jeu maintenant au Proche-Orient.
Ce qui n'est pas ce que j'ai dit. Hein.
Non, moi, je pose la question oui.
Dès que Barack Obama il a sous-traité le dossier syrien par Poutine, il lui a laissé la route presque ouverte. Je crois que toutes les diplomaties occidentales croient qu'il faut traiter avec la Russie. Et même l'opposition syrienne croit que la solution, c'est à Moscou. Vu la position de la Russie en Europe, l'Iran, c'est beaucoup plus compliqué de discuter parce qu'il y a aussi des dimensions idéologiques qui impliquent l'Iran en Syrie, contrairement à la Russie. La Russie, elle a des intérêts dans la région, il faut les reconnaître, et à partir de cette reconnaissance, la Russie est capable ou peut-être acceptera de discuter des solutions.
Emmanuel Macron affirme qu'il veut arrimer la Russie à l'Europe et non la laisser se replier sur elle-même. La question de notre attrait, est-ce que ce sera pas plutôt, est-ce que la Russie a envie d'être arrimée à l'Europe aujourd'hui?
Je sais pas de quoi envie la Russie. Ce que je constate, c'est que, ou plutôt, j'ai une petite idée de ce qu'elle cherche à faire aujourd'hui. Bon, d'abord, comme tous les régimes autoritaires, Poutine cherche à rester au pouvoir. Il faut quand même revenir à ça. Et tous ces leviers extérieurs, cet aventurisme extérieur, ces actions vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis, ce sont des tentatives d'affaiblir, de diviser et de montrer que son pays pèse sur la scène internationale, mais à son propre bénéfice. Bon, arrimer la Russie à l'Europe, moi, ces métaphores géopolitiques à la petite semaine, elles m'ont jamais vraiment convaincu. La Russie est géographiquement un pays mitoyen de l'Europe, qu'on l'appelle européen ou pas. La question est, est-ce que nous, Français, nous avons des leviers d'action sur la Russie pour que nous ne vivions pas totalement dans le même monde et pour que nos relations soient les moins confrontationnelles possibles? Mais c'est très difficile, encore une fois, je me répète, mais on ne le fera pas en étant gentil avec Poutine. On le fera en établissant un rapport de force avec ce pays, parce que la Russie de Poutine, c'est tout ce qu'elle comprend. Là, le test, il va être à Saint-Pétersbourg, lorsque Emmanuel Macron sera à ce grand forum économique qui est la fête au business de Poutine. Hein. C'est quand même Saint-Pétersbourg, c'est là qu'il a tout appris sur la gestion des réseaux économiques post-soviétiques. Hein. On va voir quelle attitude il va avoir, ça va être très intéressant. L'erreur consisterait à faire comme avec Trump, si vous voulez, c'est-à-dire des embrassades et des sourires. S'il tient un discours de vérité sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec la Russie aujourd'hui. Et s'il tient un discours clair sur les conditions dans lesquelles on pourrait lever une partie des sanctions qu'on a imposées à la Russie et qui empêchent justement le développement de ces liens économiques, alors là, il gagnera des points avec Poutine et Poutine le respectera. Encore une fois, avec des personnalités comme Poutine, il n'y a qu'un rapport de force très clair qui puisse fonctionner. C'est pas du tout la même stratégie que celle qu'on doit avoir avec Trump.
Alors, venons-en maintenant à l'Afrique. Emmanuel Macron s'est rendu en novembre au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il n'y a plus de politique africaine de la France, c'est ce qu'il a déclaré dans son discours de Ouagadougou. Ça veut dire quoi dans l'esprit du président français Antoine Glaser ?
Très clairement, quand on dit il n'y a plus de politique africaine de la France, ça veut dire il n'y a plus de France-Afrique. Ça veut dire des relations privilégiées. Un certain nombre de gens, pendant la guerre froide, qui ont cru à une véritable communauté de destin entre la France et l'Afrique. Ça veut dire clairement, il y a une politique de la France à l'égard de l'Afrique, comme il y a une politique de la France à l'égard des États-Unis et autres. Ça veut dire, ça induit l'idée d'une normalisation des relations entre la France et l'Afrique.
Mais François Hollande avait déjà dit qu'il n'y appelait plus
France-Afrique.
Oui,
mais je veux dire, François Hollande avait dit ça, mais en même temps, il continuait à envoyer des SMS à tous ses copains de l'international socialiste. Donc, je veux dire, on était quand même dans un autre type de rapport. Ce que je crois, encore une fois, c'est que Emmanuel Macron, il joue, bien évidemment, sur sa jeunesse. Et en disant, voilà, il n'y a plus de politique africaine, ça veut dire, je ne suis pas comptable du passé. C'est lui, Emmanuel Macron, il veut passer l'ardoise magique sur l'héritage colonial, post-colonial, en disant, voilà, je suis né, j'ai pas connu Jacques Foccart, j'ai pas connu ses réseaux, j'ai pas connu cette France-Afrique, sauf que, il y a Emmanuel Macron, ok, à l'Élysée avec sa jeunesse, mais la réalité des relations entre la France et l'Afrique, ça s'est privatisé, ça veut dire vous avez toute une période, c'est la période de la guerre froide, où c'était vraiment l'État français, ce qu'on a appelé la France-Afrique, avec un certain nombre de présidents africains, qu'on quand même, on oublie, mais au Fouette-Boigny, où c'est Léopold Sédar Senghor, qui ont été députés, ministres en France. Donc ça avait une cohérence interne, c'est un système complètement intégré, politique, militaire, financier, de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et ensuite, la France-Afrique, ce sont des réseaux privés, c'est du capitalisme patrimonial, sont des gens qui ont des relations avec les élites africaines et donc il y a ce type de relation. Emmanuel Macron, c'est pas, il va pas changer ça avec des discours. Mais encore une fois, je pense qu'il a pris la mesure de cette Afrique mondialisée où la France n'avait plus les positions d'antan, où finalement la présence de l'armée française sert un peu de cache-misère à une présence française globalement en déshérence. Enfin, je répète que il y a plus que 140 000 Français en Afrique et vous avez plus d'un million de ou 1,5 million d'Africains. Enfin, je parle de l'Afrique subsaharienne en France. Ce rapport a changé sur le plan de la démocratie. Ce rapport a changé sur un certain nombre, encore une fois, toute l'Afrique centrale, Congo, Gabon, Cameroun. On voit que Emmanuel Macron veut se désengager finalement de l'ancien précaré pour aller vers des pays comme l'Angola, le Nigeria, où il y a du business. En fait, c'est la réelle politique. Il va amorcer un autre rapport. Mais ce que je trouve, encore une fois, j'insiste beaucoup, cette politique d'influence vis-à-vis de toutes ces déclarations sur Alar africain, rendre aux Africains ce qu'on y avait dans les musées français, il y a tout un discours de diplomatie d'influence, ça c'est nouveau, et encore une fois, ce conseil présidentiel africain qui composait majoritairement quand même de gens dans le business ou des intellectuels du sport, c'est la diplomatie d'influence qui s'adresse moins finalement à l'Afrique qu'aux diasporas africaines en France pour ces prochaines élections.
Alors vous parliez de l'armée française, est-ce que la France ne reste pas, malgré tout et malgré elle, le gendarme de l'Afrique ? Emmanuel Macron a mis ses pas dans ceux de François Hollande.
Je pense pas, je pense que s'il y avait vraiment ce qu'on appelle le G5 Sahel, les armées de la région qui pouvaient se substituer à l'armée française, je pense que Emmanuel Macron serait très content, il laisserait bien sûr quelques milliers de soldats pour faire de la formation. Je pense qu'il y a une vraie volonté de désengagement, je pense quand il est atterri la première fois à Gao et qu'il a dit voilà, moi je suis comptable de la mort des soldats français et à partir du moment en disant faut que chacun prenne ses responsabilités dans la région, en particulier il y avait une adresse aussi, un message à l'Algérie, pourquoi s'il n'y avait pas ce problème entre l'Algérie et le Maroc, pourquoi est-ce que c'est la France qui devrait assurer la sécurité dans toute cette zone sahélo-saharienne, donc dire écoutez c'est votre responsabilité, votre problème. Donc je pense qu'il y a une responsabilisation des chefs d'État africains et de l'ensemble des pays de la région, et il y a une volonté de désengagement. Simplement, voilà, ça va pas se faire comme ça, c'est pas possible comme ça. Ce qu'ils voudraient, c'est que finalement, les pays européens payent pour la sécurité, parce que finalement, pendant que la France est en train d'assurer la sécurité pour l'ensemble des pays de l'Europe, finalement, les Européens, ils sont intégrés dans les forces des Nations Unies comme les Allemands. Mais il y a vraiment, au bout d'un moment, c'est toujours la France qui est le seul en première ligne. Donc là, il y a une volonté aussi de faire payer les autres Européens pour la présence de l'armée française, parce que les autres Européens, ils font du business pendant que la France, elle, finance les opérations extérieures. Et en même temps, il y a quand même une volonté de désengagement à long terme. Je pense qu'on rentre dans une phase de réel politique. Hein. Pour moi, qu'est-ce qu'il y a politique d'Emmanuel Macron en Afrique, ça va être la réel politique en rentrant les rétroviseurs. Et lui, il vous passait vraiment l'ardoise magique sur le passé. Hein.
Bruno Tertrais, Antoine Glaser le disait, Emmanuel Macron défend le multilatéralisme, mais la France reste un peu toute seule quand même au Sahel.
Non, mais tout le monde défend le multilatéralisme, pardonnez-moi, mais ça ne veut rien dire de défendre le multilatéralisme. Même la Russie et la Chine défendent le multilatéralisme et tous les régimes autoritaires aussi. Donc ça, c'est pas une spécificité française. Le multilatéralisme, c'est quoi? C'est de ne pas tout faire en décidant tout seul. Bon, heureusement que la France est un peu multilatéraliste. D'ailleurs, les États-Unis sont pas totalement unilatéralistes. Ceci étant posé, oui, on est un peu tout seul. Je partage totalement ce qu'a dit Antoine Glaser sur ce point. On est dans les faits engagés au Sahel pour longtemps. Moi, quand l'opération Barkhane a commencé, j'ai vu que c'était un mandat de 2 ans. J'ai dit, attendez, arrêtons de plaisanter. Vous y êtes pour 10 ans, hein, voilà. Et c'est ce que disent aujourd'hui. D'ailleurs, les officiers le disaient eux-mêmes in petto à l'époque. Donc, je crois que un peu contre notre gré, parce qu'on préférerait ne pas jouer ce rôle de gendarme du Sahel, qui plutôt que de gendarme de l'Afrique, hein, parce qu'on n'est pas non plus gendarme de l'Afrique. L'Afrique, c'est quand même un continent. Enfin, le nombre de pays dans lesquels la France intervient en Afrique est quand même relativement limité au regard de la superficie et du nombre de pays en Afrique. Non. Alors. On est le gendarme du Sahel, on préférerait ne pas l'être trop longtemps, mais je crains que ça ne dure longtemps, parce qu'aujourd'hui, si on décidait que l'opération Barkhane, donc de sécurisation du Sahel, et la mission G5 d'assistance à la formation et la coopération entre les armées des pays de la région, si on se retirait demain, ce sont les pays de la région et nos intérêts, nos ressortissants et nos intérêts économiques qui en souffriraient. Donc là, je crois qu'on y est pour très longtemps, et que donc l'armée française va demeurer au moins au Sahel, engagée pour très longtemps. Alors effectivement, il y aura peut-être moins sous Emmanuel Macron, qui n'est pas très enclin à utiliser l'outil militaire. Il est en tout cas moins fasciné par l'outil militaire que son prédécesseur, à mon avis, et que ses prédécesseurs. Et donc il aura peut-être moins tendance, tout en gardant notre présence importante au Sahel, à intervenir en cas de besoin dans des pays comme la République centrafricaine ou autre. Ben ça, en tout cas, c'est une hypothèse. Je suppose qu'il pourrait être un petit peu moins enclin à intervenir.
Salam Kawakibi, quelles vont être les prochaines échéances décisives pour la politique étrangère d'Emmanuel Macron? Est-ce que ce sera son voyage prévu en Israël et en Palestine?
Je crois que c'est une illusion, parce que vu la situation actuelle dans la région et vu la nature du gouvernement israélien en place, toute espérance de trouver une sortie de la crise ou une petite ouverture dans le mur, si j'ose dire, le mur étanche que le gouvernement israélien avait construit, et il est en train de le renforcer maintenant avec cette ouverture de front avec l'Iran via la Syrie. Je crois que la seule chose que cette visite pourra produire de positif, c'est des déclarations de bonnes intentions pour un avenir qui n'arrivera jamais.
Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, vous avez publié en 2017 La revanche de l'histoire, c'était chez Odile Jacob. Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe d'études et de recherche politique à Paris, vous avez publié Du despotisme chez Actes Sud en 2016. Et Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique, vous avez publié en 2016 Arrogant comme un Français en Afrique aux éditions Fayard. Merci à Véronique Durand qui m'a aidé à préparer cette émission et à Nathalie Laporte qui l'a réalisée. Demain, dans Géopolitique, nous parlerons du Liban et des législatives.